CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute du mag du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, pour fêter les 10 ans du pays Midi-Quercy, nous évoquons le plan climat territorial et ce qui en découle, les conseils en énergie partagée, la comptabilité énergétique. Sandrine Bach évoquera comment ce plan climat territorial a été mis en place avec ses applications. Ensuite, Sophie Fillol, pour le conseil en énergie partagée, résume. Et un exemple à La Salvetat-Belmonté, Monsieur Bernard Pezous, maire de La Salvetat-Belmonté, explique comment il a utilisé cette mutualisation des thermiciens sur le territoire du pays Midi-Quercy pour savoir quels investissements il fallait faire pour réaliser des économies. En deuxième partie, c'est Estelle Desmar, des médiathèques du Quercy-Caussadé, et Sabine Tortissier, de Terrasse et Vallée de l'Aveyron, de Nègrepelisse, qui nous parle des comptes jeunes publics et de toutes les manifestations proposées aux enfants dans les médiathèques pour la lecture, pour l'éveil et puis pour l'univers merveilleux du conte. Du pays Midi-Quercy, on ne peut pas ne pas évoquer le plan climat territorial adopté par le territoire. Sandrine Bach.
Le pays Midi-Quercy participe depuis sa création via sa charte d'aménagement à un développement harmonieux et durable du territoire. C'est une nécessité qui s'est accentuée ces dernières années avec des nouvelles contraintes qu'on a dû prendre en considération, la raréfaction des énergies fossiles et du fait l'augmentation du coût de ces énergies, l'obligation de préserver des terres agricoles, une obligation de préserver l'eau également, enfin, différentes contraintes. Et ça s'est traduit à un niveau national par la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Et cette nécessité de réduire les consommations énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre s'est également traduit au niveau plus local par la mise en place d'un plan climat fin 2009 qui donnait des préconisations en fait en termes de lutte contre le réchauffement climatique et a eu notamment des actions qui permettaient de lutter contre le réchauffement climatique sur le bâti, deux actions majeures pour le pays. Il faut savoir quand même que 43% de l'énergie nationale, c'est consommé par le secteur du bâtiment, donc c'est de loin le secteur le plus énergivore, même si effectivement, suit de très près tout ce qui est transport, en fait. Donc il y a effectivement, dans le cadre du plan climat, des actions également menées sur la mobilité, sur la préservation des terres, des actions liées à l'agriculture en général, mais là, effectivement, on a deux actions majeures sur le bâti, une mission qui est une mission de conseil en énergie partagée et qui va permettre à des communes qui adhèrent à une convention de bénéficier de conseils d'intermittents. Donc ça, ça concerne le logement communal et ça vous sera présenté par Sophie Fillol qui s'occupe de ce dispositif. Et il y a également une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui, elle, va agir sur les logements en fait des propriétaires privés. Donc le principe de ce dispositif d'OPH, c'est donc d'aider les propriétaires privés qui ont des ressources relativement modérées à réaliser des travaux d'amélioration de leur logement. Alors notamment des travaux d'isolation, des travaux d'amélioration du système de chauffage. Le principe derrière tout ça, c'est éviter l'explosion possible de la future facture de chauffage dans les années à venir. Parce qu'on parle ici en fait de lutte contre la précarité énergétique. On est bien sur une action qui porte à la fois sur le bâti, puisqu'on essaie de le préserver, on va rénover l'existant, mais on participe aussi au maintien de la cohésion sociale, en fait, via ce genre de dispositif. Alors, c'est un dispositif qui se prête particulièrement à notre territoire du pays Midi-Quercy, parce qu'en fait, les habitants ont des ressources relativement faibles, on va dire, par rapport au territoire régional. Et malheureusement, on sait bien que le coût croissant des énergies touche surtout les plus modestes. Et puis surtout, on est sur des logements qui sont en général des logements anciens, voire très très anciens, et qui ont donc été construits sans aucune réglementation thermique à l'époque. Ce qu'on demande thermiquement au bâtiment a tellement évolué que ça nécessite quand même des améliorations pour le confort des personnes qui y habitent. S'il y a aussi des maisons qui n'ont pas de système de chauffage central, il y a quand même vraiment des travaux, ne serait en termes de sanitaire également, de ventilation, il y a ce genre de choses à prendre en considération. Quelques chiffres quand même sur ce que ça a permis de faire jusqu'à ce jour. Ça fait 18 mois que le dispositif est en place sur le territoire et ça a permis d'aider quand même 80 propriétaires occupants. Donc ils ont eu des aides financières, parce que c'est quand même ça le principe, c'est des aides financières en échange de travaux. Et surtout la plus-value, c'est qu'il y a l'animateur terrain qui fait des permanences, qui se déplace à domicile et qui peut donner des conseils neutres et qui peut indiquer vraiment au propriétaire ce qu'il faut faire en priorité pour améliorer le confort. Parce que la priorité, c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas forcément les fenêtres par exemple, c'est pour isoler son toit. Donc ces 80 personnes qui ont été aidées, ça a quand même aussi généré sur le territoire 2 millions d'euros de travaux à ce jour, parce que l'opération n'est pas terminée, plus de 800 000 euros de subventions, et surtout un gain moyen d'énergie et de confort thermique entre avant les travaux et après les travaux de plus de 50%. Donc c'est quand même pas négligeable, puisque l'ANA, qui est partenaire du dispositif, nous imposait 25% d'amélioration, et sur le pays on est en moyenne à 50% d'amélioration. Donc c'est plutôt une réussite. On prend contact soit dans les mairies, soit au pays. Et effectivement, Jean-Pierre Bouglon, qui est notre animateur local, ou moi-même, on est complètement à la disposition des personnes, bien entendu, pour tout renseignement complémentaire et pour donner des informations à la fois techniques et administratives sur le dispositif.
Sandrine Bach, je vous remercie.
Merci.
Passons maintenant aux modalités pratiques. Avec Sophie Figuol, le Conseil en énergie partagée est mis en place depuis un bon moment. Vous reprenez le flambeau. On vous a fait un historique ?
Oui, donc c'est une mission qui a été lancée en 2007, donc dans le cadre d'un appel à projet comptabilité énergétique qui a été lancé à destination des communes du pays Midi-Quercy. On a eu 10 premières communes pilotes qui ont adhéré au service et qui ont pu bénéficier de ce premier diagnostic finalement de leur consommation énergétique, de leur patrimoine communal. Ensuite, en 2010, il a été créé, donc dans le cadre du plan climat du pays Midi-Quercy, le service Conseil en énergie partagée, où là, l'idée, c'était de mutualiser des thermiciens à l'échelle du pays qui pourront donner un conseil neutre et individualisé aux communes adhérentes au service. Donc aujourd'hui, on a 26 communes adhérentes et 2 communautés de communes qui bénéficient de ce service. Et donc là, on est dans une phase de renouvellement des conventions, donc qui dure 3 ans, avec les premières communes qui se sont engagées.
Et alors, que font les communes quand elles sont adhérentes et qu'elles veulent bénéficier d'un conseil en énergie partagée? Par exemple, Bernard Pezouze, maire de la Salvetat-Belmonté, en quoi ça vous a été utile cette affaire?
Utile, oui, mais aussi un choix volontaire de la collectivité, puisque dès 2007, la commune de la Salvetat-Belmonté a fait partie des 10 communes pilotes pour la comptabilité énergétique. C'était beaucoup plus facile de présenter en conseil municipal une participation du pays pour la comptabilité énergétique et de voir sur l'ensemble de nos bâtiments ce qui allait bien, bien sûr, mais ce qui allait bien sur le plan énergétique nous intéressait certes, mais ce qui nous intéressait surtout, c'est de savoir les inconvénients et les déperditions. Donc, grâce à ce service et grâce aux techniciens du moment du pays, on a passé l'ensemble des bâtiments communaux et on a établi des fiches qui nous ont permis de connaître leur état, mais aussi de savoir quels étaient les travaux à réaliser pour améliorer justement cet état qui n'était pas extraordinaire pour beaucoup d'entre eux, surtout les plus anciens, avec d'énormes déperditions, très peu d'isolation. Bien sûr, les plus faciles à réaliser étaient ceux où le retour sur investissement était des plus courts. Il y avait des retours sur investissement qui étaient quasiment immédiats dans les 15 jours. Il y en a d'autres qui allaient plutôt sur une dizaine d'années. On priorise. On priorise, on a un tableau, on priorise, et bien sûr, on priorise sur ceux qui nécessitent le moins d'investissement pour un retour immédiat, pour aller vers ceux qui nécessitent le plus d'investissement, mais par contre, qui aura des vertus énormes sur les finances locales à l'avenir, quoi.
Le gros de votre matière première, votre combustible, c'est quoi?
Alors là, le combustible, le gros du combustible était le fioul. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est que c'était le fioul sur les bâtiments existants. Et on a énormément travaillé aussi avec le Conseil d'énergie partagée sur une réhabilitation de bâtiments, le presbytère sur le hameau de Belmonté. Et là, on s'est posé la question de quelle énergie utiliser. Et bien sûr, par rapport au contexte économique du moment, on n'a pas choisi le fioul, puisque c'était pas le plus vertueux, et on a choisi le granulé bois, avec une chaudière granulé bois, qui à ce jour donne entièrement satisfaction. Je peux en parler parce qu'elle est en service depuis 2 mois et demi, fin octobre, quoi. Donc, disons 2 mois et demi, 3 mois. La consommation a l'air plus que correcte, ce qui nous permettra aussi, puisque on a beaucoup travaillé avec les conseils d'énergie partagée, on a travaillé aussi sur des prospectives sur l'école, où effectivement on consomme aujourd'hui par an sur une école d'environ 450 mètres carrés, on consomme environ 5000 litres de fioul. Donc, ça méritait une étude approfondie. Cette étude approfondie a été faite aussi par le conseil d'énergie partagée. Et les résultats, aujourd'hui, sur le plan papier, certes, sont plus que probants, puisque en changeant totalement l'énergie, en créant aussi une chaufferie bois granulée ou plaquette encore plus intéressante, puisqu'aujourd'hui les chaudières granulées bois sont pour des petites consommations, pour des jusqu'à 30-35 kilowatts. Et des endroits où on ne peut pas mettre de plaquettes. Mais par contre, pour l'école, on pourrait arriver à une consommation, enfin, pas une consommation, à un besoin de chauffage qui est autour de 50-60 kilos, qui permettrait d'avoir un système de plaquettes. Et donc, au travers de cette étude, il apparaît que l'économie serait plus que probante, puisque au-delà de l'économie immédiate, il y a un investissement. Cet investissement serait rentabilisé sur 8 ans. Et sur environ 15 ans, on aurait environ dans les 60 000 euros de moins de dépensés. C'est pas du gain, mais c'est ce qu'on ne dépense pas est aussi du gain, quoi.
Il va y avoir une nouvelle nuit de la thermographie donc sur Quélus le vendredi 5 avril au soir. Donc, où en amont, en fait, le service conseil en énergie partagée va venir photographier plusieurs maisons sur Quélus. Donc là, Quélus est une commune plutôt grande. Il va y avoir des sélections qui vont être faites sur la commune, donc en collaboration avec les services de la mairie. Voilà, et les personnes qui auront leur maison photographiée recevront un courrier leur faisant part donc de cette nuit de la thermographie et de cette manifestation qui aura lieu donc sur Quélus le vendredi 5 avril.
Vous n'avez pas quelque chose dont vous vouliez absolument parler ?
Je suis en train de me dire, parce que j'ai beaucoup parlé des réhabilitations qui étaient réellement faites comme au presbytère, etc. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que...
Peut-être essayer de parler des 3 grandes missions du service, juste pour rappeler ce que fait le Conseil d'énergie partagée, donc la compta énergétique pour les communes, les achats groupés et le suivi de projet, réhabilitation... l'arrêt du presbytère, l'école, etc.
D'accord. Depuis qu'il y a le CEP, par rapport à la simple comptabilité énergétique, le CEP a compris la comptabilité énergétique. Mmh. Aujourd'hui, de l'achat groupé pour
des
petits travaux, économie d'eau,
les
joints sur les menuiseries pour les économies d'énergie. Et que de plus, ils font
le suivi de projet.
Un suivi de projet, oui. Pour dire que ça s'est élargi à ça, oui. Alors, je sais plus. Mais...
Voilà.
Sophie Filliol, je vous remercie. Monsieur le maire, je vous remercie.
Merci à vous.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
On va maintenant parler des comptes jeunes publics avec Sabine Tortissier de la médiathèque de Négropolis et Estelle Desmaures de celle du Quercy Caussadé. Bonjour Estelle.
Oui, bonjour Joanne. Les comptes jeunes publics se déroulent depuis janvier avec Alexia et Franck Claret qui ont fait une très belle prestation et qui ont séduit les petits et les grands. Et ensuite, bien sûr, il y a un programme qui se déroule mars, avril, mai et juin. On essaye de faire une fois par mois. En février, il y avait vacances scolaires, donc il n'y aura pas de comptes. Par contre, ce sera Caussade où il y aura une animation, un petit festival. Raconte-moi une histoire, qui se déroulera du 26 février au 1er mars. Et ensuite, les contes jeunes publics vont reprendre la main avec Sybille Bligny qui viendra donc sur l'intercommunalité, aussi bien dans les médiathèques ou dans les écoles où il n'y a pas de médiathèque. Et elle viendra donc du 11 au 15 mars. Et son titre, ce sera « Il était une fois ». Au mois d'avril, en fait, il y a Odile Franchet, c'est une nouvelle conteuse qui vient. Du 15 au 19 avril, elle va nous faire sans doute démonstration avec des objets pour amener les enfants à découvrir par l'oralité, mais aussi par magie des objets. Et ensuite, au mois de mai, du 21 au 25 mai, la compagnie à cloche-pied. Et enfin, pour finir, Jean-Yves Pagès, qui viendra du 10 au 14 juin. Et le titre de son conte, ça sera « Mouette à bâbord » pour préparer les vacances. On essaye de renouveler un petit peu la programmation, surtout toujours avoir des contes de qualité et un accompagnement musical aussi.
Des dates de soirée de contes, Estelle Desmaures, il y en a déjà cette semaine.
On commence vendredi 8 février, une soirée off avec la venue de Pascal Rouquette, Fragment d'amour, à 20h30. Donc c'est la salle des fêtes de Mirabel. Et ensuite, nous aurons la venue de Jihad Darwish, qui racontera les mille et une nuits. Ça sera le samedi 16 février à 20h30. Et enfin, à Molière, jeudi 21 février, à la salle de la pyramide, avec la venue de Monique Burg, qui racontera un village sans histoire. Toutes ces soirées sont libres et gratuites et on met un point d'honneur pour offrir donc un verre de l'amitié à l'issue de cette soirée, pour poursuivre en fait les histoires.
Merci Estelle.
Merci à vous. Au revoir Joanne.
En terrasse et vallée de l'Aveyron aussi, une belle programmation. Sabine Tortissier de la médiathèque Négropolis.
Eh bien écoutez, oui, alors nous on n'a pas appelé ça nos contes jeunes publics, on appelle ça les racontines. Ça a lieu une fois par mois, alors avec l'association Réelle pour des lectures de contes. Et puis une fois par mois aussi, une séance spéciale conteur. Donc on fait venir un conteur et en l'occurrence ce matin, donc ce mercredi 6 février à 10h30 a eu lieu donc une séance spéciale racontine avec un conteur ou une conteuse plutôt. Qui s'appelle Sophie Delarue, de la compagnie Recto Verso, et qui est venue nous raconter un conte sur Ansel et Gretel. Il s'agissait donc d'une lecture-spectacle qui faisait appel au théâtre d'objets, au conte, et puis ponctué de chansons, voire d'odeurs. Voilà, donc un joli succès pour ces racontines. Ces racontines, en fait, ce matin, sont en lien un peu avec ce qui se passe à la fois au niveau des écoles, sur le territoire, puisque nous avons choisi de travailler avec les scolaires sur le conte cette année. Donc la programmation se fait en lien avec la thématique du conte. Et nous organisons actuellement sur Négropolis une très belle exposition qui s'appelle « Mon chaperon est rouge » avec les originaux de Frédéric Manceau, voilà, qui a repris le conte du petit chaperon rouge, qui travaille sur de la peinture sur tissu. Donc nous avons les originaux à la médiathèque, c'est une très belle exposition qui a lieu donc jusqu'au samedi 23 février. Venez la voir, je pense que ça mérite le détour.
Alors ce soir à 17h, quelque chose à Albiens aussi?
Oui, alors cette année, on a souhaité démarrer avec un nouveau rendez-vous poétique, qui s'appelle Sonner trois fois. On a travaillé avec l'association En Page, En Parole, je crois qu'il siège sur Saint-Antonin-Nobleval. Bien chez nous, à la médiathèque d'Albias, nous allons recevoir une comédienne et poète qui s'appelle Amandine Monin, qui arrive à concilier ses deux passions, à la fois le théâtre et l'écriture, qui réalise des performances. Elle écrit des textes spectacles, alors je la cite en disant ça. C'est un nouveau rendez-vous qui a toute sa place en bibliothèque, faire découvrir des textes poétiques, littéraires, c'est aussi notre rôle. On attend du monde pour voir et découvrir que la poésie peut être aussi du spectacle vivant.
Formidable. Et alors raconte alors.
Alors oui, cette année encore, nous avons travaillé avec donc le festival Alors Raconte et les amis de la médiathèque du Tarn-et-Garonne pour faire venir un conteur mercredi 13 février à 20h30 au Centre culturel de Montricou. Nous allons recevoir dans le cadre des extras du festival Jihad Darwish avec un spectacle qui se nomme Rencontre sur le pont de Bagdad. Voilà, donc c'est un spectacle gratuit, tout public, à partir de 8 ans. On conseille de réserver, donc je vous laisse un numéro de téléphone, c'est le 05 63 02 41 09. Jihad va venir nous raconter des histoires sur des califes qui se déguisent, des aveugles qui réclament des gifles, un maître d'école que la vie a transformé en mendiant, un homme généreux dont la générosité dépasse celle du calife, un jeune homme qui fouette sa jument en la suppliant de le regarder, et bien d'autres personnages aussi étranges. Donc je pense qu'on sera une belle soirée de découverte de cette culture. Et ensuite, nous avons une seconde date, le dimanche 17 février à 15h, où on a mis en place donc une randonnée comptée à Bruniquel. Le rendez-vous a lieu à 15h, place de l'Horloge. C'est aussi un spectacle gratuit, tout public. Et puis, petite précision, donc la manifestation sera maintenue en cas de pluie dans les salles du château. On peut se renseigner au 05 63 64 25 55.
Merci beaucoup.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.